Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 10 janvier 1870, Pierre Bonaparte assassine Victor Noir. Le 11 janvier 1870, le quotidien La Marseillaise paraît encadré de noir. C'est l'organe de presse de la plus radicale des oppositions au Second Empire. Il est dirigé par le polémiste Henri Rochefort, qui tient lui-même la plume. Sur toute la largeur de la première page, il lance un appel à l'insurrection. Le titre d'abord. « Assassinat commis par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte sur le citoyen Victor Noir. Tentative d'assassinat commise par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte sur le citoyen Ulrich de Fontvieille. » La prose est fulgurante. J'ai eu la faiblesse de croire qu'un Bonaparte pourrait être autre chose qu'un assassin. Voilà 18 ans que la France est entre les mains ensanglantées de ces coupe-jarrets qui, non content de mitrailler les républicains dans les rues, les attirent dans des pièges immondes pour les égorger à domicile. Peuple français, est-ce que décidément tu ne trouves pas qu'en voilà assez ? À midi, la Marseillaise est saisie. Mais 145 000 exemplaires sont déjà vendus. L'affaire ressemble à un fait divers. Cependant, le meurtrier est un membre de la famille impériale. La victime est un journaliste de l'opposition. L'affaire Victor Noir devient l'image de deux France qui s'opposent. L'Empire contre la République. Le Second Empire entame sa 18e année. Le bilan du régime présente des aspects positifs. La victoire de Crimée marque la revanche de Waterloo. La France s'est agrandie de Nice et de la Savoie. L'expansion économique donne au pays une réelle prospérité. Toutefois, Napoléon III conforte son pouvoir par la dictature. La Constitution de 1852 restreint la plupart des libertés. Néanmoins, à partir de 1860, le régime s'est libéralisé. L'empereur s'achemine vers une monarchie constitutionnelle. Le 2 janvier 1870, Émile Ollivier, naguère fougueux opposant républicain, forme le gouvernement. Candidat aux élections législatives de 1869, Henri Rochefort est triomphalement élu à Paris. L'empereur l'autorise à rentrer de son exil bruxellois pour exercer son mandat parlementaire. Bien décidé à démolir le régime, il fonde la Marseillaise, dont le premier exemplaire paraît le 19 décembre 1869. Résolument socialiste, le journal attaque chaque jour le souverain et sa famille. La Marseillaise emploie un jeune journaliste de 21 ans, Yvan Salomon, connu des lecteurs sous le pseudonyme de Victor Noir. Il tient la rubrique « Boulevards et faubourgs ». C'est un grand garçon, robuste, aux cheveux noirs et crépus, toujours riant et plaisantant. Originaire d'Attigny dans les Vosges, il est issu d'une famille juive convertie au catholicisme. Victor Noir est lié au jeune publiciste Paschal Grousset, qui lui demande d'être son témoin pour une affaire d'honneur qu'il oppose au prince Pierre-Napoléon Bonaparte. Personnalité turbulente et violente, le fils de Lucien Bonaparte mène une existence mouvementée. Il vit modestement à Auteuil, de temps à autre il envoie un article au journal bonapartiste « L'avenir de la Corse ». Sa prose est commentée sans indulgence par le quotidien républicain de Bastia, La Revanche, dont Paschal Grousset est le correspondant parisien. Les attaques répétées de la revanche font perdre patience à Pierre Bonaparte, qui adresse à l'avenir de la Corse une lettre dans laquelle il traite ses adversaires de nullité, de lâches Judas, d'escargots rampant sur le bronze pour rayer de leur bave ou encore d'infimes folliculaires. Trois jours plus tard, le directeur de la revanche, Lucien Tomasi, bâtonnier de Bastia, répond vertement. Hors de lui, Pierre Bonaparte provoque en duel Henri Rochefort. Pachal Grousset fait de même avec Pierre Bonaparte. Il choisit ses témoins, Ulrich de Fontvieille, un ancien officier de 36 ans, et Victor Noir. Les deux hommes se présentent au domicile de Pierre Bonaparte. Ulrich de Fontvieille s'adresse à lui. « Monsieur, mon ami, Victor Noir et moi, nous venons de la part de Pachal Grousset remplir une mission que cette lettre vous expliquera. » Et lui tend la missive. Pierre Bonaparte s'en empare, il s'approche de la fenêtre et lit. La suite est confuse. Écoutons le récit du prince. Le plus grand me frappe vivement à la joue gauche d'un coup de poing, et je vis le plus petit s'armer d'un pistolet qu'il avait tiré de sa poche. Il a cherché à l'armer en s'appuyant sur la main gauche dans laquelle se trouvait l'étui du pistolet. Je me suis reculé de deux pas, j'ai tiré de ma poche droite un pistolet à 5 coups que je porte habituellement sur moi. J'ai tiré un coup sur le grand, j'étais à 2 ou 3 mètres de lui. Il s'est retourné immédiatement et a quitté le salon par la salle d'armes par laquelle il était entré. Tout cela n'a duré qu'un instant. Il ajoute que le second individu s'est enfui. Victor Noir descend l'escalier en chancelant. Il se cogne contre la porte cochère, trébuche et tombe sur les genoux et les mains sur le trottoir. Les témoins affirment que son visage est aussi blanc que sa chemise. Il est transporté chez un pharmacien voisin, un médecin à court. Il constate le décès du jeune homme. Le préfet de police ordonne l'arrestation du prince. Au matin du 12 janvier 1870, il fait froid et il pleut. Cependant, 200 000 Parisiens rejoignent la maison de Victor Noir à Neuilly. Vers 13 heures, Henri Rochefort apparaît. Il est acclamé. Pourtant, il offre une image consternante. Il balbutie d'un ton hésitant que le cortège ne doit pas traverser Paris pour rejoindre le cimetière du Père-Lachaise, mais gagner celui de Neuilly, comme le souhaite le gouvernement. La foule manifeste son mécontentement. Louis Noir, le frère de Victor, paraît alors à la fenêtre avec une grande dignité. Il précise que la famille souhaite que le défunt soit inhumé à Neuilly. Le corbillard arrive, le cercueil couvert de lilas blanc y est placé. Le cortège s'ébranle. Il parvient à vue de Neuilly. Là, un choix s'impose. Tourner à gauche vers Paris et c'est la révolution. Tourner à droite vers le cimetière de Neuilly et renoncer à toute action immédiate. Louis Noir s'interpose, bouleversé, il écrit « Vous oubliez le respect du haut mort. Enterrons-le aujourd'hui, demain nous le vengerons. » Le seul espoir des républicains est Henri Rochefort. Tous se tournent vers lui, il est blême, sa tête oscille, il s'évanouit, c'en est fait. Le cortège poursuit son chemin vers le cimetière de Neuilly où Louise Michel rend un ultime hommage à Victor Noir. Le 27 mars, les magistrats de la Haute Cour acquittent Pierre Bonaparte, qui est toutefois condamné à verser 25 000 francs de dommages et intérêts à la famille du défunt. Napoléon III ordonne à son cousin de vivre à l'étranger. Il se retire dans les Ardennes belges, à Herbemont. Victor Noir est aujourd'hui inhumé au cimetière du Père-Lachaise, où sa dépouille a été finalement transférée. Nous retrouvons dans un instant Historama pour la chronique littéraire. Un jour, 3 livres, je crois bien qu'il s'agit de 4 livres exceptionnellement aujourd'hui. Cette chronique a été préparé par Emmanuel. Mais avant cela, nous allons marquer une première pause musicale avec Michel Jonas. Son premier succès, c'était en 1974. Dites-moi.
Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de marte pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses, mis du papier journal sous les fenêtres. J'entendais de l'école trop de cris, il n'est rien né de notre lit. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire. Un jour, 3 livres, je vous disais 4 aujourd'hui. En commençant par un bateau dans le jardin, suivi de la traversée de l'Atlantique à la rame. Ces 2 ouvrages sont de Jean-François Laghioni aux éditions Maurice Nadeau. Les 2 récits sont illustrés par des dessins de l'auteur, qui, avant de créer son studio de films d'animation, avait fait des études de dessin. Le premier, Un bateau dans le jardin, le 1er juillet 1895, le capitaine Joshua Slocum, appareil de Boston, pour le premier tour du monde à la voile en solitaire. Le 1er juillet 1950, Pierre, modeste représentant de commerce, commence la construction d'un bateau dans le jardin d'un pavillon de banlieue en région parisienne. Les 2 voyages, bien que différents, sont tous 2 aventureux. Avec l'aide du journal de bord de Slocum, François, 11 ans, participe aux 2 aventures. Le bateau va-t-il réellement les emmener, tous les 3, en dehors des 4 murs du jardin? Le second, la traversée de l'Atlantique à la rame. La barque qui s'est échouée sur une plage de Cornouailles était couverte d'algues et de coquillages. Les mouettes tournait autour en poussant des cris perçants. À l'intérieur, on découvrit un petit cahier trempé par l'eau salée dans lequel Adélaïde et Jonathan, à tour de rôle, avaient rédigé leur journal de bord. Ce récit a donné lieu à un scénario de film d'animation en 1978, écrit en collaboration avec Jean-Paul Gaspari et réalisé par l'auteur. Un bateau dans le jardin, suivi de la traversée de l'Atlantique à la rame, c'est signé Jean-François Laguioni et c'est publié aux éditions Maurice Nadeau. Lettre à mes fantômes de Gilles Zerlini, toujours aux éditions Maurice Nadeau. En Algérie, en 1955, le gouvernement français, qui vient de décréter l'état d'urgence, envoie le contingent pour pacifier l'Algérie en pleine insurrection. Le jeune appelé Ferracci débarque à Philippeville pour y découvrir l'ampleur d'une répression qui ne figurera dans aucun livre d'histoire. Massacre de populations civiles et torture systématique avec son cortège de morts par milliers. L'auteur nous entraîne dans une œuvre de fiction bâtie sur l'expérience de ces jeunes appelés Corses qui, rentrés dans leur foyer, ne se remettront pas d'avoir participé à une telle violence. L'auteur ne prend pas parti entre les différents protagonistes de cette tragédie, considérant qu'ils sont tous les victimes de cette guerre. Lettre à mes fantômes de Gilles Zerlini, c'est publié aux éditions Maurice Nadeau. Les exportés de Sonia Devillers aux éditions Flammarion. La famille maternelle de l'auteur a quitté la Roumanie communiste en 1961. Dans un pays aussi fermé sur l'Occident, cette famille a été exportée, selon les termes mêmes de l'auteur, de véritables marchandises. Ils ont été évalués, monnayés, vendus à l'étranger. Comment, en plein cœur de l'Europe, des êtres humains ont-ils pu faire l'objet d'un tel trafic? Les archives des services secrets roumains révèlent l'innommable, la situation des Juifs. L'auteur a voulu retourner de l'autre côté du rideau de fer pour comprendre ce passé, reconstituer les souvenirs, la déchéance des membres influents du parti, la situation des passeurs et ainsi combler les blancs de son passé. Les exportés de Sonia Devillers, c'est aux éditions Flammarion. Et puis, pour terminer cette chronique, Une lueur dans les tranchées de Louis Bouffard aux éditions Pierre Tecky. À la veille de la Première Guerre mondiale, André, un jeune paysan, fait la connaissance de Cécile, une demoiselle de la bourgeoisie. Les deux jeunes gens sentent naître en eux de tendres sentiments malgré la distance sociale. C'est alors que la guerre éclate et qu'André est envoyé au front, dans l'enfer des tranchées, en proie à l'angoisse de la mort. Il est proche de sombrer dans le désespoir, la prière du chapelet et la découverte de Sainte Thérèse de Lisieux, l'amitié de ses frères d'armes et son amour pour Cécile suffiront-ils à le sauver? Et elle qui, depuis l'arrière, participe à l'effort de guerre comme infirmière, se souviendra-t-elle de ce garçon si simple? L'auteur, étudiant en droit, est atteint d'une grave maladie, c'est sa foi qui l'aide à traverser les épreuves. Une lueur dans les tranchées de Louis Bouffard, c'est publié aux éditions Pierre Tecky. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Merci encore à Emmanuel pour la chronique littéraire. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec Michel Jonas, un titre de 1985, La boîte de jazz.
Un peu parti, un peu nage, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés, c'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Dizzy. L'orchestre s'installe des professionnels. Come on, boy!
c'est moi qu'ils interpellent.
Hey Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, par cœur, je connais par cœur.
Hey fils, le nom est Davis.
Aussi, le camion aussi. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington.
Ok.
J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis. Un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de ma vie.